Frères et sœurs, chers amis, dimanche dernier, le Seigneur nous conduisait dans un champ et il se révélait à nous sous les traits du bon berger. Aujourd'hui, il nous donne rendez-vous dans un autre lieu symbolique, la vigne. Nous ne sommes plus les brebis que protège le berger, mais nous devenons les sarments qui reçoivent la vie du cep de la vigne. Cette parabole nous invite, selon le langage choisi par Jésus, à demeurer en lui. Souvent, nous faisons l'expérience de l'enthousiasme des commencements. Il est assez facile, en vérité, de répondre au premier appel et de nous lancer dans l'aventure de la foi. Cela nous stimule. Puis nous sommes portés par la joie de la découverte et le plaisir de la nouveauté. Vient alors le moment où il faut accepter de durer, c'est-à-dire de poursuivre la route malgré la fatigue et la routine, les coups durs, les déceptions, les accidents de parcours et les égarements. À ce moment, il s'agit bien de demeurer, non pas sur place, mais de demeurer en Jésus. Le livre des Actes des Apôtres nous raconte cette initiation à la persévérance. Les premiers chrétiens apprennent à durer et à demeurer. Or voilà qu'un événement des plus inattendus suscite l'émotion et le trouble. Saül, le pharisien fanatique, a demandé le baptême et il aspire maintenant à rejoindre l'Église encore toute jeune et fragile. Ne serait-ce pas de sa part une stratégie sournoise destinée à poursuivre son œuvre de persécution et de mort? Comment juger de la sincérité de sa conversion? Quelle garantie peut-il donner de sa bonne foi? Saül lui-même, qui est devenu Paul, se trouve dans une situation plutôt inconfortable. Les chrétiens le regardent avec méfiance et les juifs l'accusent de trahison. C'est alors que Barnabé raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Vraiment, les choix de Dieu sont déconcertants. Ne pouvait-il pas quand même convertir un autre que celui-ci? Or, les apôtres ne tardent pas à découvrir que Paul a reçu un don particulier, le don de la parole. Un don qu'il va mettre désormais au service d'une autre parole que la sienne, la parole de Dieu. Car cela n'a échappé à personne, il parle avec assurance. Et sa prédication ne va pas tarder à produire des merveilles. Aux Corinthiens, il adressera un peu plus tard cette confidence. Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu avec le prestige du langage et de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et son appel sera celui de demeurer en Jésus. C'est précisément dans le secret du Cénacle, quelques heures avant d'entrer dans sa passion, que Jésus adresse à ses apôtres un dernier discours. Il faut plusieurs chapitres à l'évangéliste Jean pour en restituer le contenu. Après avoir accompli le geste du lavement des pieds et partagé le repas de la Pâque, Jésus parle longuement, avec le désir de livrer une forme de testament. Non pas une série de prescriptions à respecter après sa mort, mais un encouragement à avancer sur le chemin de la foi et à vivre en disciple. En développant l'image de la vigne et de ses sarments, il souligne ainsi l'importance vitale de demeurer en communion avec lui. Jésus connaît le cœur humain, jusque dans ses profondeurs intimes, et il sait en particulier la tentation fréquente qui le traverse de rechercher en lui-même sa propre liberté. Tel le Fils prodigue, l'être humain aspire à l'autonomie qu'il espère conquérir en s'émancipant de Dieu. À ses apôtres, Jésus apprend la condition de disciple. Ce faisant, ils ne deviennent pas des esclaves, mais ils deviennent capables de dépasser leurs limites, leurs peurs, leurs doutes, et ils apprivoisent une liberté toute nouvelle. De Dieu, ils reçoivent la vie, le mouvement et l'être, comme le sarment reçoit du pied de la vigne la sève qui fait circuler la vie et qui lui permet de porter du fruit. Un seul cep peut irriguer de nombreux sarments, et tous les sarments réunis constituent une seule vigne. Ce sont donc les disciples, en communion les uns avec les autres, qui forment la vigne du Seigneur, c'est-à-dire l'Église. Les apôtres, à compter de ce jour, ont bien gravé en eux l'appel à demeurer dans le Christ. Et ce verbe se retrouve donc fréquemment dans les premiers écrits chrétiens, comme nous l'avons entendu par exemple dans la première lettre de saint Jean. « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. » Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Dieu est le premier à demeurer. Il demeure fidèle à sa parole. Il demeure présent auprès des hommes. Il demeure proche de tous ceux qui l'invoquent. Il demeure aussi celui qui nous apprend à demeurer. Il ne s'agit pas de rester immobile, comme figé ou momifié dans des habitudes, des réflexes ou des principes que rien ne pourrait atteindre, ni même interroger. L'enjeu est celui de la fidélité à l'alliance que le Seigneur a voulu engager avec nous le jour de notre baptême, comme il le fait ce dimanche avec Louis. Au cours de la semaine qui commence, nous pourrions prendre le temps de réfléchir à notre manière de demeurer en Dieu. Comment y parvenons-nous? Qu'est-ce qui nous y aide ou qu'est-ce qui nous en empêche? Sur quel ressort pouvons-nous prendre appui pour retrouver le chemin de la foi lorsque nous avons commencé à emprunter un sentier de traverse? Dans cette réflexion et dans cette prière, le psalmiste nous offre déjà quelques mots fortifiants. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous, toujours, la vie et la joie.